cartes d'épicerie, en fait. C'est des certificats cadeaux, on peut appeler ça comme ça, de 150$. J'ai fait la distribution personnellement, puis écoute, tu sais, c'est la deuxième année là, que j'embarque avec toi. Je vais certainement embarquer une troisième année, mais c'est très formateur de faire ce genre de distribution-là. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui vivent et qui vivaient des moments qui n'étaient pas nécessairement faciles. Puis, écoute, de leur donner une carte rabais de 150$ pour l'épicerie, pour qu'ils puissent passer un beau temps des fêtes. Ils m'ont remercié, mais je leur ai dit, la personne que vous devez remercier le plus, c'est Jocelyn Lusignan qui a eu l'idée de partir ce truc-là. Je ne sais pas trop comment on va l'appeler, là, mais on trouvera bien un nom à un moment donné. On va appeler ça Jocelyn.
Non, mais en fait, c'est surtout le feeling que ça donne. Ouais. Oui, c'est formateur, mais c'est surtout le fait que les gens sont contents, puis tu fais pas ça pour l'honneur, tu fais pas ça pour avoir de la grâce. C'est vraiment juste parce que ça te tente.
Ouais, puis ça fait. Mais tu sais, tu dis que tu fais pas ça pour. Ça fait du bien de donner. Oui. Tu sais, moi, de participer, j'ai acheté quelques cartes, j'ai des amis qui m'ont acheté quelques cartes, puis après ça, les redistribuer. Ça fait une différence, puis en même temps, ça te fait rendre compte qu'il y a des gens qui vivent des difficultés. Puis, tu sais, juste nous jaser de comment tu as eu l'idée de faire ça, toi.
Ben, en fait, on est une grande famille chez nous.
Six gars. Êtes-vous tous dans votre format, mettons, à 300 livres?
Non, il y a juste moi qui est dans ce format-là.
Et le voisin, il était comment, lui?
Même pas, mais je retiens de mon grand-père.
Oh ouais, c'est ce qu'on disait dans le temps, tu sais.
Trois fois, mais ils partent.
Parce qu'il faut dire, pour les gens qui t'ont jamais croisé, t'es un homme fort, t'es un gars de 300 livres. Tu mesures combien?
Je suis 6'1", 370.
6'1", 370. Fait que je t'ai enlevé 70 livres, tu m'excuseras. J'étais sûr que t'avais...
C'est pas grave, c'est quand même un bébé de plus.
Mais pour vous autres, c'est comme une insulte quand on diminue votre poids. Là.
Ben, je te dirais qu'à 3,70, je suis pesant présentement. Ouais. Quand je vais tomber en compétition, je devrais avoir à peu près 20 livres de moins.
OK.
Fait que pendant le off-season, on prend un peu de poids, on travaille le muscle pour essayer d'aller en chercher plus.
Ouais.
Puis après ça, on s'assèche un peu, puis on part en compétition.
Bon, on aura l'occasion de parler de tes compétitions. Ouais. Mais juste nous ramener les cartes. Comment tu as eu l'idée? Tu avais une grosse famille?
J'avais une grosse famille, fait qu'on a toujours été... des gens qui ont des besoins parce qu'on n'avait pas un gros salaire.
Ouais.
Puis par la suite, j'ai commencé à ouvrir ma compagnie. J'ai travaillé fort. On bûche, on dort pas, on travaille fort. Mais ça veut pas dire que le pain arrive tout de suite.
OK.
Tu travailles, puis à un moment donné, le gain arrive. Puis il y a une année que j'ai vraiment eu une bad luck dans la compagnie. Puis j'ai dû demander de l'aide, de peser sur ma conscience, de dire non, même si tu demandes de l'aide, c'est pas grave, c'est normal.
Ton orgueil.
L'orgueil, ça fait peur. Ça peut faire mal.
Ouais, l'orgueil masculin, là.
Ben, je te dirais que je le vois, là.
Ouais.
Homme-femme, c'est un orgueil qui est mal placé si t'es pas capable de demander de l'aide.
Entièrement d'accord.
Propulser par la suite.
Mais tu vois, moi, quand j'ai lancé un appel à tous pour ceux qui avaient besoin de ces fameuses cartes d'épicerie-là, les personnes qui m'ont écrit, là, pour la plupart, sauf un que je t'ai référé parce que j'avais plus de cartes, c'était toutes des femmes. Toutes des femmes, puis moi, je voulais pas privilégier des gens plus que d'autres, fait que j'ai fait un tirage, puis j'ai distribué ça. Tu sais, il y a des histoires qui m'ont marqué, mais tu sais, de savoir que toi, tu as eu l'idée de partir ça, parce que toi aussi, tu as eu besoin de ça, tu sais, je trouve ça tellement beau, là. Tu sais, si on était tous un peu comme ça, quand quelqu'un nous aide, d'essayer de redonner aussi par la suite, c'est vraiment nice, là.
Ben, effectivement, c'est ce qui a fait que j'ai commencé ça, c'est que quand j'ai demandé de l'aide, j'ai fait, OK, cette année, j'ai demandé, l'année prochaine, je donne.
Ouais.
Depuis ce temps-là, je donne tout le temps.
OK. Fait que les affaires vont mieux.
Ben, c'est un haut comme un up and down comme n'importe quelle compagnie. La COVID a été le fun. Elle a été payante pour les inspecteurs ou l'immobilier en soi. Mm-hmm. On ne se cachera pas tout le monde. Mais présentement, l'inflation crash un peu le site immobilier.
Ouais.
Oui, ça fonctionne encore, mais on est quand même beaucoup d'inspecteurs là, au Québec. Là. Fait que... Il y en a qui mangent moins, là, présentement.
Oui, il y aura toujours des ventes de maisons et des achats de maisons. Toi, t'es celui qui arrive dans le milieu, t'es l'inspecteur en bâtiment. Ça fait-tu longtemps que t'es inspecteur en bâtiment? Puis c'est quoi le nom de ton entreprise?
Ben moi, je suis Inspection CJL Inc. à Québec et Saint-Hyacinthe.
OK.
Donc, j'ai deux bureaux. J'ai commencé en 2015.
Québec et Saint-Hyacinthe. Quelle idée. Ben, Québec-Lévis, ça ne te tentait pas.
Je le fais, belle chasse. C'est juste que je suis natif de Saint-Hyacinthe. Okay. Mon premier bureau a été ouvert à Saint-Hyacinthe.
Ouais.
Donc, je suis référé de partout. Puis, sérieusement, là, mes clients, là, ça part de Québec jusqu'à Ottawa. Là.
OK. Puis tu es un gars de là, toi?
Je suis un natif de Saint-Hyacinthe.
OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené à Québec?
J'avais un associé. Ouais. Je suis dissocié. J'ai ma famille qui est maintenant établie à Québec. Même si je suis divorcé, ben mon ex-femme est quand même à Valcartier. Mes enfants vont à l'école à Québec, fait que je reste dans le coin de Québec.
OK. Fait que tu t'établis à Québec pour les prochaines années.
Là. Oui, puis c'est une belle ville. Là.
Ouais.
On se le cachera pas, c'est un beau coin, puis je suis dans Valcartier, fait que je suis tout le temps dans la forêt.
Exact.
On est capable de tirer à la plug.
OK. Puis ton quotidien en tant qu'inspecteur en bâtiment, qu'est-ce que ça fait un inspecteur en bâtiment, si ce n'est que ça inspecte des bâtiments? Ça, à quoi ça sert, ta job?
Protéger, servir. C'est de même que je l'ai été depuis que je suis jeune. Moi, depuis que j'ai 18 ans, je suis pompier pour répondre.
Ouais.
J'aide les gens.
OK.
Fait que c'est ma philosophie dans la vie, j'aide les gens. Inspecteur en bâtiment, j'ai commencé ça en 2015 pour point barre. Tu sais,
ouais.
Depuis ce temps-là, je fais que ça.
T'avais-tu des connaissances en rénovation?
En bâtiment.
En démolition, en construction?
J'ai travaillé un peu dans tout. Sérieusement, là, j'ai touché à tout, que ce soit la restauration, la construction, le transport. J'ai ma classe 1 pour aller chauffer des trucks.
OK.
Sérieusement, je peux faire tout.
OK.
Mais mon père est menuisier, ferblantier. Fait qu'on travaille là-dedans. Okay. Puis on est jeune, on tient un marteau, les parents.
Fait que tu avais une expérience de base. Là.
De base.
Okay.
Et j'ai aussi beaucoup de formation qui fait que je me considère maintenant une sommité dans ce que je fais.
Mm-hmm.
Parce que quand tu es rendu que les inspecteurs t'appellent, dire j'ai un problème, tu peux-tu venir voir?
Mais tu sembles être très minutieux là, dans ton travail. Là, tu m'en parles régulièrement. Moi, j'en reviens pas de savoir qu'à 370 livres, tu passes dans les trappes du grenier. Mais pour le reste, je crois tout ce que tu me dis.
Mais encore là, j'ai des vidéos pour le faire, des
oui,
photos.
C'est ça.
Je t'ai montré.
Ce qui me reste à déterminer, c'est si tu te lubrifies pour passer dans la trappe de grenier.
Je suis pas rendu là, mais je te confirme que je commence à avoir une coupe de graphique.
Ben, c'est clair. Fait que mais... toi, là, je sais pas, moi, je veux acheter une maison. Je suis pas trop sûr de mon achat parce que je connais rien à savoir si le bâtiment est correct, s'il y a des choses qui sont à faire et tout ça. Tu sais, le courtier est super gentil, puis il me dit que c'est la meilleure maison puis, du quartier, puis j'aurai jamais de problème avec ça, mais j'ai besoin d'une sécurité supplémentaire. Ben, je peux faire affaire avec un inspecteur en bâtiment qui se présente et qui me représente et qui travaille pour moi.
Oui, mais à la base, un inspecteur, ça travaille pour tout le monde. OK? Oui, tu le payes, mais il te protège toi, mais il protège tout le monde dans la transaction. Fait que, sérieusement, le fardeau d'un inspecteur est très grand versus le prix qu'on va le payer.
OK.
Ou ce qu'il va faire. Parce qu'il est imputable pendant toute sa vie sur le rapport qu'il a émis. Fait qu'un rapport que j'ai fait il y a 10 ans,
ouais.
Je suis encore imputable.
Oh boy.
Même si la maison a été modifiée.
OK. Fait que quand tu donnes ton rapport à la fin, il faut que tout soit déterminé. Là.
C'est détaillé. En moyenne, là, on compte environ 300 points à vérifier dans une maison.
Okay.
Une maison au bungalow standard. Fait que plus c'est long, plus tu as d'étages, plus tu vas avoir du temps, des choses à expliquer verbalement comme par écrit.
Okay.
En moyenne, je te dirais 60-80 pages par rapport, c'est en moyenne 3 à 6 heures de rédaction. C'est 2 heures d'inspection en moyenne sur le site.
Ouais.
On arrive toujours d'avance.
Tu prends des photos énormément?
C'est entre 3 et 400.
Entre 300 et 400 photos
ouais,
à chaque maison.
Oui, fait que c'est un duplex, quadruplex, siplex, name it, il y en a de la photo.
OK.
Fait que le téléphone, il se remplit.
Ouais.
Présentement, j'ai 84 000 photos dans mon iPhone.
OK. Puis est-ce qu'il faut que tu les conserves, ces photos-là, pour X nombre d'années ou tu les mets dans un cloud quelque part puis tu dis si ça me sert dans 20 ans, ça me servira dans 20 ans?
Ben, on n'a pas le choix, un peu comme le gouvernement nous dit, là, tu sais, tu dois garder tes documents pendant 7 ans.
Ouais.
C'est la même chose pour l'inspecteur.
OK.
Mais les photos, on les garde 7 ans ou quasiment invitam eternam.
Ouais.
On les met dans Dropbox.
OK.
On fait le dossier, on fait ta rédaction, tu mets ça dans Dropbox, puis hop, tu le pitches.
OK, parfait. Donc, tu donnes ça au client, puis après ça, le client, lui, va choisir s'il achète la maison ou pas, ou ça détermine si ils vont baisser le montant de la maison ou pas?
Un rapport n'est pas fait pour négocier, OK?
OK, ça... mais là, tu comprends que la plupart des gens négocient ton rapport, là.
Oui, parce que mon travail à moi, c'est de déterminer comment le bâtiment est. Parce que oui, comme tu dis, tu sais, le courtier prend des super de belles photos, puis sérieusement, là, Centris, là, tu vois que des belles photos.
Ouais.
La maison, là, est super belle. J'ai le patois de dire le plus beau château pourrait être le pire des tonnes-martes, là. C'est carrément ça.
Ouais.
Parce que des fois, tu arrives, tu sais, comme là.
Ce que tu me dis, c'est que sur Centris, là, les photos de maison, c'est un peu comme sur Tinder, là, c'est modifié, OK?
C'est pimpé.
Ça se peut que ce soit des photos de v'là 10 ans.
Peut-être pas de v'là 10 ans, là, mais tu sais, ils ont tout ramassé.
Ouais.
Tu sais, c'est beau, c'est propre, mais quand tu arrives, des fois, ben, tu as des amasseurs compulsifs. Fait que souvent, tu n'as comme pas les photos en dedans, là.
OK.
Ça, ça peut arriver. Il y a aussi, mettons, comme là, dernièrement, j'ai fait une vidéo là, pour une maison qui avait des champignons.
OK.
Le quadruplex, c'était super beau. L'inspecteur a omis certaines choses. Moi, quand j'ai vérifié, mais là, on a su que finalement, il y avait eu des problématiques.
OK, mais quand tu dis l'inspecteur a omis certaines choses, il y avait un inspecteur qui s'était présenté avant toi?
Oui, oui. Moi, en réalité, j'étais comme un deuxième inspecteur qui passait pour un autre client.
OK.
Puis là, il donne, parce que tellement tu as l'obligation de donner le rapport et tout ce qui est papier qui pourrait aider l'inspecteur à faire son inspection.
Ouais.
Puis mon adjoint, qui regardait les photos, a dit « Hey, j'ai vu telle affaire, c'est bizarre. » Le gars avait marqué comme quoi que c'était du scellant, c'est les poutres, mais finalement, c'est du champignon.
OK. Fait qu'il n'avait pas vérifié son affaire comme
non,
il faut.
Non, c'est pas la même chose. Puis là, techniquement, là, j'ai pris contact avec le propriétaire. Le propriétaire est en négociation pour faire incinérer le bâtiment.
Okay. Il est incapable de se débarrasser des champignons.
Le champignon qui est dit la myrule pleureuse, celle-là, c'est un cancer du bâtiment. Il est comme généralisé.
OK.
Fait qu'il va juste continuer à pousser. Puis on ne peut pas le traiter à glace sèche.
Puis y en a-tu qui sont assurés pour ce genre de problématique-là?
Malheureusement, non, pas encore.
Ah,
oh,
ouais.
Il y a des subventions qui peuvent pour si c'est pas trop pire.
OK.
Mais quand c'est rendu là, on incinère. Mais c'est un quadruplex. Hein.
Oui, c'est ça. Puis ça arrive comment dans une maison, ça, ce champignon-là?
Bien, c'est plusieurs facteurs. Ton facteur peut être... Tu sais, souvent, c'est dans des vides sanitaires, dans des endroits où c'est chaud, humide, pas ouais. de clarté, pas de ventilation. Mais c'est le parfait braining pour que le bois pourrisse puis le champignon commence.
OK.
Puis après ça, ben, c'est les spores qui fait que ça se prolifère.
Mais y a-tu plusieurs types de champignons qui peuvent s'attaquer à une maison?
Oui, mais oui, okay. Une quantité astronomique de champignons, je les connais pas toutes. Moi, dès qu'on voit qu'une...
Je pensais que tu étais ce style-là, de te promener dans le bois là, l'été, à ramasser des petits champignons.
Sautant, puis... gambadant.
avec tes albums.
Oui,
ça, c'était un champignon, telle date. Ouais.
Mais non, c'est ça, parce que tu sais, on peut y aller avec la moussure, les champignons. Mais
ouais.
Dès qu'on voit... Parce qu'un inspecteur, là, c'est un grand généraliste. Tu vois quelque chose, tu dis, OK, ça a l'air de telle chose.
Oui.
On va l'envoyer vers quelqu'un.
OK.
Je peux pas te dire c'est quoi.
Non, c'est ça.
Pas en expertise.
Mais tu me dis que ton adjoint avait remarqué que sur les photos de l'autre inspecteur, il y avait des trucs qui allaient pas. Hey, je vais te raconter une histoire macabre parce que ça m'a fait popper. Ça m'a fait popper quand tu m'as parlé de ça. Un individu qui était malheureusement décédé. Bon, il y a eu une petite enquête là, parce qu'il n'était pas décédé hier, il était décédé il y a de ça plusieurs jours. Et écoute, l'individu restait dans. Je vais changer les données, OK, parce que je veux pas que.
Oh oui.
C'est sûr qu'en parlant, il y a des gens qui vont le reconnaître, là, mais il habitait dans un endroit, tiens, c'était un logement, et il n'y avait pas une famille très, très proche, puis il n'y avait pas d'amis très, très proches, donc il est décédé dans son sommeil, que je présume, OK?
Ouais.
Et à un moment donné, ben, il y a des pompiers qui ont été appelés sur place, puis qui sont rentrés dans l'appartement, et ils ont dû faire des photos parce que ça puait dans l'appartement, dans l'immeuble. Et il y a des gens qui se sont plaints. Donc, les pompiers sont rentrés, ils ont pris des photos, puis ils ont dit « tout est beau ». Quelques mois plus tard, Poste Canada, le bureau de poste, dit « il semble que lui, ça fait un bail qu'il n'est pas venu chercher sa malle, puis son char, c'est un petit milieu, là, ouais. Son char est encore en face de chez eux. » On va appeler la police pour que la police aille vérifier. Donc, la Sûreté du Québec se présente à l'appartement de l'individu, ouvre la porte, commence à faire des recherches un peu plus consciencieuses là, que ce que les pompiers ont fait.
Techniquement, il est passé à côté.
Et finalement, ils ont réussi à retrouver l'individu qui était, je te dis ça comme ça, dans son lit. OK? Et là, ils se font dire par les résidents de l'immeuble que les pompiers étaient venus il y a de ça quelques mois et qu'ils avaient vérifié l'appartement, puis il n'y avait absolument rien. Ouais. Donc là, tu comprends que les pompiers sont venus. On va demander s'il y avait eu une prise de photo à ce moment-là. Regarde sur la prise de photo et vois les cheveux. Le gars avait une chevelure particulière. Là, et vois les cheveux de l'individu dans son lit. C'est dire à quel point il y en a qui sont minutieux et il y en a qui ne le sont pas. Là. T'sais, on parle de quelqu'un qui était mort dans son lit. Les pompiers se font appeler pour se faire dire « Hey, ça pue dans le logement, peux-tu aller vérifier? » Ils vont vérifier, prennent même des photos de l'individu mort et ne se rendent pas compte bon, c'est des pompiers volontaires, là, mais ils se rendent pas compte que c'était quelqu'un de mort dans le lit. Je veux dire, c'est important quand tu fais un travail d'être minutieux. Puis moi, ça me marque que ton adjointe ait remarqué le travail de l'inspecteur, regardé les photos, puis a dit « Non, ça, c'est pas du scellant, là.
Non,
ça semble être des champignons. »
Non, puis clairement, elle a fait comme « Hey, ça se peut pas que ça soit ça, tu sais. Viens confirmer. » Fait que là, je commence à lire le rapport. Je dis « Non, c'est vraiment des champignons. » J'appelle ma courtière, je dis « Tu veux démolir le bâtiment, tu sais? » Elle dit « Non. »
Je veux le vendre.
Elle dit, mon client veut l'acheter. Je dis, ouais, mais pour le mettre à terre. Elle dit, non, pourquoi? Je dis, ben, je mettrai pas ma main au feu, mais présentement, toutes les photos que je vois, il y a du champignon à côté. Hein. Fait que là, on a fait faire une analyse. Ça a confirmé ce que je disais.
OK. Est-ce qu'elle aurait pu ignorer ton rapport? Puis vendre l'immeuble pareil?
Ben, elle, c'était pas elle qui le vendait. Elle l'achetait avec
son client. Elle l'achetait. OK. Est-ce qu'elle aurait pu l'ignorer puis conseiller à son client de l'acheter pareil?
Peut-être, mais rendu là, c'est mal placé.
Ouais.
On s'entend, il va toujours avoir des bonnes personnes, des moins bonnes personnes. Il y en a qui veulent le gang-pain, puis il y en a d'autres qui veulent le protéger.
Exact.
Fait que si t'as un gang-pain, tu vas dire, ben, achète-le pareil.
Ouais.
Tu le verras pas. Mais non, là, elle a fait comme, OK, ben moi, je cancelle ma vente, puis nanana.
Fait qu'elle était consciencieuse.
C'est ça, mais là, le vendeur se ramasse avec le fait que il a mal entretenu son bâtiment, puis là, il se ramasse qu'il va falloir devoir l'incinérer.
Okay. D'habitude, ça se ramasse sur Centris vendu sans garantie légale.
Oui, mais d'après moi, là, ben, il peut cacher les rapports, là, mais ça, c'est encore là, on appelait ça un dol.
Ben, c'est une fraude.
C'est une fraude, fait que faut pas faire ça. Mais ça arrive des fois.
Ben oui, ça arrive.
Ça arrive souvent que tu arrives, la déclaration du vendeur dit « Tout est beau ».
Ouais.
Là, tu commences à faire le tour à l'extérieur, tu fais comme « cette fissure, tout est beau ». Il y a un manquement des fois, là, puis c'est pas le courtier, c'est pas le vendeur. Des fois, c'est juste parce que t'as pas pris la peine de faire le tour avant de la mettre en vente.
Ouais. Ce qui me fait halluciner des fois, Jocelyn, c'est le fait qu'il y a des gens qui vont procéder au plus gros achat de leur vie, c'est-à-dire leur maison, 350 000, 450 000, puis qui se disent « Je vais sauver sur l'inspection ».
Ouais, à combien tu me fais ça? Ça, là, cette question-là, là, ouais, c'est quoi le prix? OK, tu veux pas savoir ce que je fais? Tu veux pas savoir comment je suis compétent, tu veux juste savoir le prix. Ben, regarde, ça va être ça le prix. Je le charge plus cher. Je veux pas être l'inspecteur rabais parce que j'ai une compétence. Je suis bon dans ce que je fais.
Ouais, mais il y en a-tu qui vendent leur cul comme ça?
Oh,
qui baissent leur prix?
Dans notre domaine, on appelle ça des putes. Là.
Non, okay, nous autres, moi, j'aime ça jouer un peu avec les mots. Je suis un peu radio-canadien là, dans ma façon d'être.
Oui,
tu
c'est
le sais.
Une bonne chose.
Je te dirais que c'est de type péripatéticienne.
Oh shit. Oui. Oh,
ouais.
Non, ça, c'est un très bon mot.
C'est
mais
ça.
Oui, il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui disent moi, 400 taxines, je te le fais. OK, combien de coins ronds tu vas faire, par contre?
Ben oui.
Parce que là, tu y vas en quantité.
Oui.
Donc, la qualité n'est pas là.
Ah, puis il va vouloir. C'est un entrepreneur. Il veut pas perdre l'argent, puis il veut sauver du temps.
Oui, mais en même temps, tu peux pas sauver tout le temps du temps, puis pas te faire ramasser à un moment donné. Là.
Exact.
Moi, j'ai, en 10 ans de carrière, moi, je suis du bout, j'ai aucune mise en demeure.
OK.
Aucune. Puis je suis reconnu à la cour comme expert.
Mm-hmm.
Puis la semaine prochaine, je suis en cour pour des clients.
OK.
Parce que je suis bon dans ce que je fais, puis j'ai été reconnu.
OK. Moi, ce qui m'avait marqué de l'inspecteur qui s'était pointé chez nous, moi, j'avais acheté une maison centenaire, 110 ans, dans le secteur de Lévis, là, dans le vieux Saint-Romuald, en fait, sur rue du Sceau, ça se peut-tu?
Oui.
Enfin, ça date un peu, là. Mais j'avais acheté cette maison-là, puis avec mon beau-père, je l'avais rénovée au grand complet à l'intérieur. En fait, j'avais juste mis de la peinture. Je pense que j'avais pas demandé de permis. Mais j'avais juste mis de la peinture. Et quand l'inspecteur est venu avec sa cliente, il me dit « Est-ce que tu veux faire le tour avec nous? » Je dis « Est-ce que j'ai le droit? » Il dit « Bien sûr, j'ai pas le droit de t'empêcher de faire le tour avec nous. » Puis sérieusement, là, la façon dont l'inspecteur s'adressait à la cliente puis de la façon dont il expliquait les choses, j'ai appris des choses sur ma propre maison. Puis l'inspecteur disait pas « Ces fenêtres-là sont finies. » L'inspecteur disait « Ces fenêtres-là ont 10 ans, sont encore très bonnes. Dans quelques années, ils vont peut-être être à remplacer, mais pour l'instant, c'est de très bonnes fenêtres. » Je veux dire « Wow! Wow! »
C'est ça.
Parce que tu dis à ta cliente « Regarde, pour l'instant, elles sont bonnes, mais prévois-toi un budget parce que dans 10 ans, tout va être à remplacer. »
C'est de l'éducation.
Exact.
Un inspecteur doit être volubile. Doit être capable de verbaliser ce qu'il a à dire puis de rassurer sans dire que c'est de minimiser. Tu sais, si c'est une anomalie, c'est une anomalie. Mais trouve-moi la solution puis explique-la.
Exact.
C'est important parce que si tu le fais pas, ta cliente arrive, là, elle est en panique parce que le verbal pendant l'inspection versus le rapport, là, c'est deux choses complètes.
Mais tu sais quoi? Moi, j'y allais tout le temps. J'ai été chanceux, là, les premières maisons, j'y allais sans inspecteur. Puis là, ben moi, quand j'ai vu cet inspecteur-là qui travaillait pas pour moi, là, qui travaillait pour la cliente qui voulait acheter ma maison, je me suis dit, plus jamais je vais prendre la chance d'acheter une maison sans inspection. Plus jamais.
Non, mais tu sais, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est obligatoire, tu sais, techniquement, parce que...
Hey, c'est pas obligatoire.
Non,
c'est pas obligatoire. Moi, là,
personnellement, ça l'est. Là.
Parce que tu, je sais que j'ai de l'air extrêmement riche, là, avec mon linge qui est incroyable. Du Gucci, hein? C'est, je pense que c'est ça
de que tu m'as dit. De tes enfants.
C'est ça que... que j'ai acheté chez Winners. Mais, tu sais, moi, quand j'allais à la caisse, je disais, ben, mon beau-père est entrepreneur, là, il va pouvoir vérifier la maison. Ah oui, votre beau-père est entrepreneur. Oh, OK, c'est beau. Ça passait, là.
Oh, oui.
Ça passait, mais t'imagines-tu les risques? Mais à quel point j'ai pris des risques.
Il y a des maisons qui se sont vendues sans inspection.
Oui, à distance.
Tu devrais voir le nombre d'expertises qui sont en train de popper, ça.
Oui.
De toute beauté. Ah, ça coule. Ah, il y a de l'eau, il y a de l'efflorescence. Pourquoi?
De l'efflorescence, c'est quoi ça?
Tu sais, là, le beau blanc sur le béton là, que tu vois de temps en temps, là, c'est les bridges ou dans ta maison, là,
ouais.
Ça a l'air comme du sel.
Oui.
Ben ça, c'est des minéraux qui ressortent de ta fondation.
Okay.
Parce qu'il y a de l'eau dans ta fondation. Fait qu'elle s'assèche, l'efflorescence va passer.
OK. Mais ça, c'est néfaste?
Oui puis non.
Est-ce que ça affaiblit ton béton?
Ça pourrait.
OK.
Selon les fissures, selon plein de facteurs qui fait que... Quand tu as de l'efflorescence, souvent, c'est ton drain de fondation qui peut être en fin de vie. Fait que où il est bouché, il doit être nettoyé.
Le drain de fondation, tu m'excuseras les mots que j'utilise, là, drain français, ça se peut-tu?
Hey, ben oui.
Ouais. OK.
DF, drain de fondation, drain français.
Parce que moi, je fais tout, là. Puis j'ai comme steppé up avec YouTube. Fait que j'ai appris plein d'affaires que je peux faire maintenant sur ma maison. Mais on dirait que c'est les anciens termes. Eux autres, ils disent drain français.
Ben, drain français, drain de fondation, c'est à la même place.
Ah oh non.
Ça draine la fondation.
Français.
Eux autres, c'est en dedans, c'est pas dehors. Okay. Bon.
Puis il fut un temps, parce que j'ai appris, parce que j'avais acheté aussi un chalet en Beauce sur le bord d'un lac, là, un magnifique endroit où mes enfants habitent maintenant. Il fut un temps où tu n'avais pas besoin de drain de fondation.
Bien, techniquement, au cas du bâtiment, l'obligation est là, sauf si tu es capable de démontrer que le sol draine amplement.
Bien, c'était pas ça partout, c'était sur le bord d'un lac. Là. J'étais obligé d'en rajouter un.
Bien, c'est ça.
Oui.
Mais techniquement, comme mettons chez ma mère à Val-Alain, elle n'a pas de drain. Parce qu'ils ont été capables de prouver que le sol en sable est capable de drainer amplement pour pouvoir enlever le drain.
Mais c'est une maison qui s'était bâtie quand, ça?
Ma mère?
Oui.
Il y a 2 ans.
Il y a 2 ans, c'est ça. Mais le chalet, quand je l'ai acheté, écoute, il y avait eu beaucoup de rénovations. Là. C'est un ancien chalet suisse qui ont mis plusieurs annexes. Puis après ça, après avoir mis toutes les annexes, ils ont décidé, hey, on va peut-être faire un sous-sol. Fait qu'ils ont creusé le sous-sol à pelle. Dans le temps, là, c'était des hommes. Là. C'était pas des hommes familisés comme moi. Là. ils se disaient, regarde, au diable, là, on va creuser à pelle puis on va réussir à se faire une cave comme du monde. Puis ils l'ont fait, là, mais ils n'ont pas ouvert à l'extérieur. Ils n'ont pas rajouté un drain français.
Mais tu peux le faire en dedans comme dehors.
Oh, tu me l'apprends.
Il y a des maisons...
C'était pas sur YouTube.
Non. Il y a des maisons comme, mettons, cette semaine, je suis allé dans le coin de Saint-Émile.
OK.
Saint-Émile, il y a le loc ferreux.
De l'ocre ferreux. OK.
Ah ouais, là, encore un autre mot pour toi.
Articule, c'est le sens du monde.
Donc, l'ocre ferreux.
Oui.
C'est une vase qui se crée avec le sulfure de fer et l'eau. OK. Qui rentre dans ton drain, puis tu as le colmate.
OK.
Donc, dans ce sens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire un drain autour de la maison, avec des cheminées de nettoyage, pour le nettoyer de temps en temps.
Ouais.
Ils peuvent en faire dans la maison aussi.
Ça, les cheminées que tu parles, là, c'est là...
Les tuyaux blancs.
Ah, ben non, moi, je mettais des bouts de verre dessus. Là. C'est un tuyau noir avec un bout de verre dessus que j'ai acheté chez Canac.
Ouais, mais là, c'est parce que c'est toi qui l'as fait.
OK.
Parce que techniquement, il y a deux beaux tuyaux blancs en angle qui se vendent pour ça. Ça coûte comme 200$.
Bon, ben c'est pour ça que le truc vert, ça a fait la job.
T'es moins cher.
Ça a été moins cher.
Mais ouais, c'est ça. Quand c'est moins cher, c'est ça. T'as des bouts de verre.
OK.
Mais non, c'est ça. Donc oui, il peut avoir des drains internes comme externes.
OK.
Fait que selon l'entrepreneur spécialisé qui devrait faire le travail, techniquement, là, c'est pour ça qu'on le paye d'habitude, d'avoir une garantie et un travail bien fait.
Ouais.
Ben, il va te conseiller quoi faire.
OK. OK.
Il y a des prix qui sont différents.
Les problèmes majeurs que la plupart des clients que tu as ont, c'est quoi? C'est l'eau, hein? Je pense que c'est l'eau. Le pire ennemi d'une maison, c'est l'eau. Ça peut-tu être autre chose?
Oui, puis les entrepreneurs. Non, sérieusement, il y a des bons entrepreneurs comme des moins bons, comme tantôt.
Ouais. Les connaissez-vous, les entrepreneurs qui botchent un peu?
On en connaît. Ouais. On en connaît tous.
Par leur prénom, j'imagine.
Mais, oui, puis tu peux même taper des fois, là, J.E., on pense souvent.
Ouais.
Des grands entrepreneurs, là, tu sais, on les nommera pas, genre Trigone, c'est beau à voir des fois, là.
Ouais.
Donc,
ils ont beaucoup de problèmes.
Ben, tu vois, ils ont passé comme trois fois à J.E., là.
Okay.
Parce que ça coulait dans les murs, il y a de la moisissure partout, il y a des malfaçons. Là.
OK. Fait que tout ça a été documenté puis ça s'est ramassé en cours.
Et je sais pas si c'est encore en cours.
OK.
Mais je sais qu'ils ont perdu leur licence puis qu'il a fallu qu'ils leur donnent pendant la COVID pour qu'ils puissent finir les bâtiments bâtelés parce qu'il y en a qui se ramassaient à la rue.
Incroyable.
Vive le gouvernement.
OK. Fait que vous autres, vous le savez des fois qu'il y a des entrepreneurs qui peuvent tourner les coins ronds.
Effectivement. Quand on regarde un bâtiment, les plus gros problématiques là, qu'on va voir, c'est souvent bon les infiltrations d'eau. Parce ouais. que souvent, la goutte d'eau, elle rentre à 10 pieds plus loin, puis ton problème est 20 pieds plus loin. Là. Fait que la goutte d'eau, elle peut se déplacer longtemps. Puis le revêtement extérieur est souvent très, très, très mal installé. Okay.
On va commencer par le revêtement extérieur. C'est quoi les problématiques du revêtement extérieur?
L'installation. L'installation, souvent, tu sais, on va prendre du Canexel, ben les joints, il faut qu'ils soient chevauchés. Ça arrive souvent qu'on les voit qui sont un en face de l'autre.
Ouais, ça, on appelle ça des jobs de samedi puis dimanche avec tes beaux-frères.
C'est ça. Ben la toiture, même chose. Souvent, là, les toitures, là, il faut y repasser.
Mais comment tu peux te tromper en faisant une toiture?
Ben ta bande de départ, n'est pas placée comme il faut. Si ton flashing, qu'on appelle, là, c'est une petite bande mouleuse blanche, là,
ouais.
Ben il faut que tu l'installes du bon bord. Parce qu'il y en a qui ne l'installent pas du bon bord. Fait que là, si elle est par-dessus la membrane, ben l'eau, elle passe oui. entre les deux. Oui. Tu dis, ben oui, installe-la. Parce qu'en bas, il faut que tu l'installes en dessous. Sur le côté, il faut que tu l'installes au-dessus.
Oui.
Fait qu'il faut que tu te le saches.
OK. Mais ça là, quand tu fais le tour de la maison, tu remarques ça, toi?
Nous, on le voit.
OK.
On tasse les bardeaux, on vérifie. On regarde le bardeau en soi. Tu sais, on va le lever, on va voir si tu as ta bande de départ ou pas.
Mm-hmm.
Parce que des fois, il ne l'a pas. Mais il y a des choses qu'on peut pas voir parce que c'est caché. Comme si l'hiver, là, c'est un petit peu plus difficile.
Oui. Moi, j'avais une cheminée en bosse, là. J'avais ma cheminée qui avait été faite en pierre avec la job artisanale, mettons. Ouais. Là. Puis j'ai tellement eu de problèmes avec cette cheminée-là. Là. Tu sais, il y avait une infiltration d'eau. D'un, il n'y avait pas de chapeau sur ma cheminée.
C'est une bonne chose.
C'est l'enfer.
Comment? Cache-toi le cap.
Non, mais tu sais, le prix était fait en conséquence aussi, puis j'ai acheté sans garantie légale, là, parce que je savais que YouTube existait. Là. Fait que la première affaire que j'ai faite, c'est que je me suis occupé des infiltrations d'eau. Tu sais, la cheminée, il fallait que ça prenne un petit chapeau. Après ça, j'avais regardé là, tu sais, toutes les pierres. Je voyais que c'était crevassé et tout ça. Je me suis arrangé pour tout boucher ça. Après ça, le contour de la cheminée, les petits trucs qui commençaient à s'effriter, j'ai tout stabilisé ça. Comment?
Des scellants.
J'ai rajouté du scellant aussi. Je veux dire, visuellement, c'est pas très beau, mais c'était étanche en sacrifice. Mais j'ai commencé par ça pour essayer d'empêcher l'eau de rentrer. C'est la base. Mais je comprends pas comment ça qu'il y a des gens qui se rendent pas compte de ça, des gens qui acceptent que il y a des petites infiltrations d'eau à certains endroits. J'ai des chums qui sont quand même brillants, là. Des bonnes carrières. Ça peut être des avocats, des ingénieurs. Mon chum ingénieur. Ouais, ça coule un peu, là, mais c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave, gros épée?
Souvent, là, c'est le 50 000 qui ont investi, vont l'investir sur le flashing. Le bien paraître.
Ouais.
Je vous l'ai dit tout le temps, prends 25 000, là, mets-les dehors en premier, là, puis prends l'autre 25, là, tu feras quelque chose d'acceptable.
Ben oui.
Parce que le problème, c'est que même si tu mets 50 000 dans ta cuisine, dans ta salle de bain, là, si ça coule dedans, là, c'est fini. Tu viens de reperdre le 50 000 de toute façon.
Là. Ouais. Mais ça, c'est souvent des discussions avec la conjointe.
Moi, je voulais un chien, elle voulait un chat, fait qu'on a décidé d'avoir un chien.
Un chat-chien! Oui, c'est ça. Fait que l'extérieur, tu sais, c'est les infiltrations d'eau, la façon dont tu poses ton bardeau, la façon dont, le revêtement que tu prends. Mais c'est ça, tu sais, le canac, moi, je trouve ça cool, le canac. C'est là où j'achète mon stock. Mais des fois, ça irait bien si le gars prenait comme 25 minutes, 30 minutes à m'expliquer comment l'installer sur le sens du monde.
Oui, mais en même temps, c'est-tu vraiment le petit gars de 18 ans...
Non.
Au revêtement que tu vas vouloir demander.
Non, mais j'en suis pas d'accord avec toi.
Mais par contre, ils ont des bonnes formations. Sérieusement, je niaise là-dessus, là, mais habituellement, ceux qui sont là longtemps, ils ont des très bonnes formations sur le matériau qu'ils vendent. Mais en soi, là, le fabricant, là, tous les guides sont sur Internet.
J'ai YouTube.
Ben, YouTube.
YouTube.
YouTube, c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. Les gens te laissent partir avec le stock, puis ils se disent, ben, regarde, il a payé, il s'organisera avec. Mais quand tu as la chance de tomber sur. Hey, l'autre jour, j'ai pogné un gars au dépendant. Je ne sais pas si tu m'as entendu en parler à la radio, mais 84 ans, sacrément. Il travaille au. Sais-tu Home Depot qui est à la sortie du pont de Québec?
Ouais,
ou Renault Depot? Home Depot?
Tu parles celle en sortant au Proche du Canac?
Ben, à Charny? À Charny,
oui. Ouais, un gros Canac qu'il y a là.
Mais c'est pas un Canac. À droite, c'est un Canac ou un Home Depot? Ouais, en tout cas, bref. Quand tu sors du pont de Québec, quand tu t'en vas chez les autres, là, sur la rive sud, là, à droite, en sortant du pont de Québec, il y a une grosse affaire de rénovation. Je pense que c'est un Home Depot. Et il travaille là. 84 ans, puis j'ai appris plus en 10 minutes en jasant avec lui au dépanneur à machine à café qui marchait pas que j'ai appris avec les gens que j'ai côtoyés qui étaient des spécialistes en construction. Ce genre de ressources-là dans un Canac ou dans un Canadian Tower ou tu sais, t'en as besoin, là.
Oh oui.
Ah, le gars de 18 ans qui commence, il a le droit à avoir sa chance aussi. Il peut avoir pris son cours de quincaillerie et tout ça, mais le gars de 84 ans, il a vu neiger.
Ben, il les a tous vus passer souvent, puis il est capable de dire ben, tel produit, il est bon pour telle chose, mais il va être un inconvénient pour telle chose.
Ouais.
Versus le gars de 18 ans, il dit ben, on vend ça.
Ouais. Mais souvent, quand tu pognes des gars d'expérience, des gars et des filles d'expérience dans les quincailleries, on dirait qu'ils testent un peu à savoir si tu sais quoi faire avec le produit qui vient de te vendre. Là.
Ben, c'est leur travail de toute façon. Là. Comme moi, comme inspecteur, là, quand je te vois arriver, là, je fais comme « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Mais là, si tu me dis « moi, je crée des vidéos. »
Tu vas t'adapter. Tu vas devoir m'adapter.
Je vais expliquer davantage que si le gars il dit « mais moi, ça fait ma 8e maison, j'ai 3 flips dans la cravate, puis je travaille sur la construction comme charpentier. » Bon, OK, mais on va s'adapter, puis il y a des choses que je vais peut-être passer plus vite, sauf si c'est des questions. Mais sinon, je vais passer plus sur le technique.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois, ben, c'est une question de vocabulaire aussi. Là, vous devez vous adapter tout le temps à la personne avec qui vous faites affaire. Donc...
ça, c'est une belle anecdote. Il y a un moment donné, je vais à Bromont.
Ouais.
Je fais un condo pour un monsieur qui achète un skieur. Il me dit, moi, je suis ingénieur, puis je veux acheter ça. Fait que je dis, hey, t'es un ingénieur, parfait.
Comment tu fais dans le centre Vidéotron pour savoir qui est ingénieur quand le centre Vidéotron est rempli à rabat?
Il est encore dehors?
Non, non, il vient te le dire.
C'est sûr, ça.
S'il va me tuer. S'il m'entend, il va me tuer, c'est clair.
Ah, oh, mais ça, c'est chat et chien pour nous autres en plus avec les ingénieurs. C'est tout le temps le fun pour ça. Là. Mais là, il me dit, ah, oh, je suis ingénieur. Fait que c'est parfait, on va pouvoir parler le même langage ensemble.
Ouais.
Mais là, on fait le tour de l'extérieur. Puis il m'arrête, il dit, hey, excuse-moi, j'ai fuck all rien qu'on veut. J'ai dit, comment ça? Il dit, ouais, mais je suis ingénieur, mais ingénieur en finance pour Bombardier. Je fais comme, écris pas même en voix.
Mais au moins,
tu
l'as dit.
Tu m'as dit qu'il est ingénieur. Je dis, mais attends un peu, on va recommencer l'extérieur.
C'est ça, je t'ai dit, ils viennent te le dire.
Ça, c'était un état de beauté.
Ouais. Oh, on a un petit changement d'éclairage en studio.
C'est tamisé.
Comment?
C'est tamisé.
Oui, ben, tant que tu gardes ton linge à 360 livres, ça va être correct. On va continuer l'entrevue, mon cher ami. Fait qu'on a commencé avec l'extérieur, la toiture et tout ça. À l'intérieur, c'est quoi le pire ennemi pour une maison? C'est ce que tu constates, mettons.
Ben, 80 % des problèmes, on va dire, sont au sous-sol, dans l'entretoit.
Ouais.
Donc, infiltration d'eau encore, les champignons, la moisissure. Le mononcle Tijauque, qui est venu t'aider à faire des travaux.
Ouais.
Parce que souvent, ben oui, ça peut être bien fait, comme des fois, là, t'as des petites catastrophes, là, électricité, plomberie, là.
Ben la plomberie, là, tu sais, c'est facile, la plomberie, quand tu regardes ça, là, dire, oui. OK, c'est juste des tuyaux, mais t'as des angles à respecter.
Ah, oui, il faut que ça descende à 45, pas de 90. Faut que ça, si t'as un 90, il faut qu'il soit DWI.
Ouais.
Ou sinon, t'as pas le droit de l'installer. Faut pas qu'il soit, mettons, en descente versus en montée.
Ça arrive-tu souvent, ça, tu le sais, à savoir si ça, cette job-là, a été faite par un professionnel ou ça a été faite par Roger qui donne son temps en fin de semaine? Qui donne son temps
du la fin premier de semaine. Coup d'œil, tu le sais.
OK.
Que ce soit un plombier ou un électricien. L'électricien, là, un vrai électricien qui s'aime, qui aime sa job, là, c'est un art. Les fils, deux par deux, bien droits, bien centrés, dans le panneau, ils ont le loop, tout est bien fait. Puis après ça, là, t'as le monde petit genre qui est arrivé, là, c'est tout pêle-mêle, bien broche à foin, là, c'est de toute beauté.
Ouais.
Donc oui, on le voit. On le voit tout de suite, que ce soit la plomberie, l'électricité, la finition, tout.
Mais il y a des gens, Jocelyn, qui veulent sauver de l'argent, là, qui se disent, c'est pas vrai que l'industrie de la construction, quand tu fais venir un électricien, là, tu sais, lui, ouais. Là, il part de chez eux, il s'en va chercher son truck, le truck part de l'entreprise, il s'en vient chez vous. Puis après ça, il part de chez vous, puis il s'en va à l'entreprise. cet employé-là, faut que tu le payes. Là. Oui. Puis là, tu regardes, tu dis, si c'est 125$ pour un électricien, ça n'a pas de bon sens. Mais en bout de ligne, c'est pas l'électricien, il n'a pas le 125$ dans son compte. Là.
Bien, souvent, quand tu payes quelque chose, souvent, ils disent, c'est crime, c'est bien cher. Oui, mais décortique le prix. C'est ça. Qu'en bout de ligne, là, finalement, il ne fait pas grand-chose, la personne. L'achat que tu fais, finalement, il en paye du stock pas mal avant que ça soit vraiment une rentabilité.
Bien, les outils de ce gars-là, les assurances de ce gars-là, l'essence qu'il prend, le camion quand il vient chez vous, ça a un montant, ça.
Ah oui. Tu sais, nous autres, là, quand on charge 600$ pour une inspection, là, mais c'est pas 600 dans nos poches, hein. T'as l'assurance, t'as le camion, t'as les rapports, l'adjointe. En bout de ligne, là, par inspection, là, il peut nous rester entre 50 et 100$.
Par inspection?
Par inspection.
OK.
Des fois, là, un peu plus.
De selon profit ou de paye? Je dirais change de job.
La paye, c'est pas mal la même chose, je te dirais.
Oui, mais en même temps, oui puis non. Tu sais, je veux dire, moi, je peux avoir une entreprise puis je me dis, je me donne 25$ de l'heure de salaire, mais c'est une entreprise qui va être florissante puis ce que je vais me garder comme profit en bout de ligne à la fin de l'année, je vais peut-être le réinvestir à d'autres endroits.
Il faut que tu calcules toujours qu'en début d'année, tu payes des impôts, tu payes des affaires. Fait que les premières payes, là, sont, tu sais, t'en as pas, là. Les premiers chèques qui rentrent, là, ça s'en va tous ces paiements. C'est à la fin de l'année que ça commence à dire que t'as un profit, t'as quelque chose qui s'en vient.
Je comprends.
Là. Donc, dans les premiers temps, là, quand tu dis « Ah, OK, on vient des fêtes, tout le monde est un peu cassé », il y en a qui changent le prix. Mais quand tu changes ton prix, là, tu diminues ton travail.
Ouais.
Fait que tous les gens, on garde toujours le même prix habituellement, mais parce qu'on a des choses à payer, puis qu'à un moment donné, il faut se tirer un salaire, parce que sinon, effectivement, on ferait d'autres choses.
Hein, oui, carrément, carrément. Tu sais, on parlait de la plomberie puis de l'électricité. La plomberie, c'est surtout les angles, c'est le mauvais choix de tuyau aussi. Qu'est-ce que tu constates?
Le mauvais choix, du tape. Des fois, la bonne réparation en tape gris, là, on le voit très, très souvent.
À ta bulle, il y a des gens qui réparent le tuyau avec du tape gris.
Ah oh, oui. Ben oui, ça coulait. Hey, je vais le patcher pour l'instant, puis la semaine prochaine, on va appeler de mon lit.
Ouais, ça tient, touche pas à ça.
Mais c'est ça. Tu sais, ça va arriver que des fois, là, on voit que la conformité n'est pas là.
Ouais.
Mais que ça fonctionne. Dans mon rapport, j'ai pas le choix de marquer que c'est pas correct. Mais si ça bloque pas, puis ça ne bouge pas, ben tu peux le laisser là. À moins que ce soit une réparation artisanale, puis qu'il ne fonctionne pas. Mm-hmm. Mais c'est d'éduquer ton client de dire, OK, va falloir que tu le répares, mais est-ce que c'est jour 1 ou c'est plus dans ton premier 5 ans? C'est comme ça qu'il faut aller mentionner, parce que oui, il y a des problèmes partout. Oui.
Ça, c'est pour la plomberie. Pour ce qui est d'électricité, moi, j'ai passé mes fils d'électricité, puis à la toute fin, parce que j'avais lu pas mal là, là-dessus pour la rénovation de ma maison à Lévis, justement, à la toute fin, j'ai demandé à un entrepreneur général, maître électricien, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, de venir vérifier. Puis là, il est venu vérifier, il a remarqué certaines affaires que j'avais pas faites à ce sens du monde. Avec son adjoint, son électricien, ils ont replacé les affaires comme ça devait être. Puis après ça, il a tout fait la jonction avec la boîte principale. Et ça m'assurait que s'il y avait un problème avec ma maison, les assurances allaient veiller.
Effectivement. Au niveau des assurances, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta maison, sauf le panneau électrique. Tu ne peux pas raccorder un fil dans un panneau électrique s'il est ouvert puis qu'un assureur passe, il peut ne pas te couvrir.
OK. Pourquoi?
Parce que ça prend quelqu'un de compétent, parce que ça prend une garantie sur le travail bien fait, parce que...
Parce que si tu passes au feu, ben les assurances qui ont tout fait pour t'avoir comme client ne voudront pas nécessairement payer.
Et voilà, effectivement. Ça met ça.
OK. Mais ça, t'en vois-tu des installations électriques qui ont été faites par Tijot?
Je pourrais t'en sortir une barge de photos d'anomalies électriques parce que c'est facile aussi. Tu sais, il dit « Ah, ben je ferme le main, raccorde mon disjoncteur, puis on part en business. » Oui, mais non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mm. Puis des fois, là, c'est des maisons neuves qui sont mal faites où il y a une problématique.
Vous constatez ça même dans les maisons neuves?
Oui, parce que présentement, dans la construction, on a ce qu'on appelle des apprentis bassins. Fait que le gars passe par le bassin pour tomber apprenti, fait ses heures pour aller chercher ses cartes.
Oui, mais faut que le maître électricien vérifie.
Oui. Devrait, mais est-ce que c'est fait?
Toi, tu me confirmes que parfois, ce n'est pas fait.
Un mot électrique pas attaché, là,
ouais.
Ça m'arrive souvent.
Okay.
Mais pourtant, ça aurait dû être vérifié okay. avant même que l'électricité soit rendue dans le bâtiment.
Mais tu sais, moi, j'ai tendance à faire confiance. Là, puis en côtoyant des gens comme toi, je me dis tout le temps, OK, là, j'ai peut-être fait peut-être une erreur de jugement en faisant confiance à U puis à IA, à gauche et à droite. T'sais. Mais oh, à U puis à IA, ouais. c'est en Beauce. tu sais, on m'a toujours dit, ben, quand une maison neuve est faite, normalement, c'est faite avec les normes de bâtiment. Fait que tu n'as pas nécessairement besoin d'un inspecteur, alors que c'est totalement faux. Là.
Non, effectivement. Puis tu sais, c'est sûr que quand tu parles avec un inspecteur, plus souvent il va te sortir les mauvaises choses que les bonnes choses, pour la simple et unique raison que c'est juste ça mon travail, c'est ouais. de trouver des problématiques, c'est d'expliquer la problématique puis de trouver des solutions. Mais ce qui saute aux yeux, c'est pas un job bien fait. Ce qui saute aux yeux, c'est toujours une anomalie. Donc nous, notre job, c'est de trouver l'anomalie, de dire le pourquoi. Puis même dans la maison neuve, oui, on a des gens très compétents qui font le travail à la perfection.
Ouais.
Mais tu ne parleras pas de lui parce que tu n'as pas besoin de parler de lui. C'est bien sa job. Mais par contre, le petit casque qui a fait sa plomberie puis qui a mis sa tank à eau chaude, ses clapets anti-retour, puis que dans le cas, c'est bien spécifié que les clapets devraient toujours être disponibles pour avoir un entretien dessus. Tu fais comme où c'est que tu es allé prendre ta formation?
Oui, c'est ça. C'est ça. Puis vous autres, quand vous passez dans une maison, un inspecteur en bâtiment, là, vous pouvez juste. C'est visuel. Vous pouvez pas voir ce qu'il y a dans terre. Là.
Non, non, c'est ça. C'est visuel et sommaire, surtout pour le préachat. Quand on va commencer à percer des murs ou autre, on va appeler ça une expertise.
OK.
Fait que souvent, ça va être du technico-légal parce qu'on veut, trouver la problématique, on veut donner un rapport pour peut-être que la personne ait une poursuite en vice cachée okay. ou une
technico-légal, c'est quoi? Tu mets-tu ton sarreau, puis tu mets tes petits gants avec tes lunettes, puis tout?
C'est presque ça.
Presque ça?
C'est presque ça, parce que tu vas prendre tes photos, tu vas être chirurgical dans ce que tu fais.
Ouais.
Faut que tu sois capable d'expliquer le pourquoi, le comment, puis comment ça aurait dû être fait. Donc, c'est à peu près la même chose.
OK. Un ami a vendu une maison, puis l'inspecteur qui est venu, quand il est venu avec sa cliente, j'étais là, on prenait une bière sur la terrasse, et il m'expliquait, parce qu'il m'avait reconnu, il m'expliquait qu'ils ont des appareils maintenant technologiques pour pouvoir voir au travers des murs. L'humidité.
Oui, c'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter. En réalité, c'est des appareils thermographiques qu'on appelle.
Thermographiques.
Donc, encore là, tu as plusieurs sortes. Tu as des belles petites caméras à 200$, puis tu en as à 100 000.
Oui, c'est ce qu'il me disait, lui. C'était une couple de 1000$, mais il y avait les infiltrations d'air, de froid.
Oui.
OK. Puis il y avait l'humidité. Ça existe-tu, cet appareil-là?
Oui, oui. Okay, on appelle ça, souvent, on va le jumeler, notre thermographie, notre caméra thermique, on va la jumeler avec un hygromètre. Donc, on va être en mesure de savoir, mettons, l'humidité relative dans la pièce. Qu'est-ce okay. que c'est? Combien que ça fait au niveau du taux d'humidité? Puis le mur, c'est une variation de température qui fait qu'on est capable d'avoir une lecture.
Ouais, je comprends. OK. Puis l'humidité idéale dans une maison, c'est quoi? Mettons dans le sous-sol. Et c'est, ouais, je t'en pose-tu des questions?
C'est parfait.
C'est 50, hein?
Non. À 50, t'es trop élevé.
À 50, je suis trop élevé ouais. dans le sous-sol.
Techniquement, c'est 35-45. Parce que.
Ouais, là, 45, non, 50,
C'est niaiseux, mais à 55% d'humidité, le fabricant qui fait du plancher flottant ne garantit plus son produit.
À 55, OK.
Ouais, fait que quand tu es à 50, la variation là, de 55, tu l'as, de toute façon.
Fait que c'est entre 35 et 45.
Ouais. Okay. Comme l'échangeur d'air que les gens souvent arrêtent parce qu'ils disent, ouais, mais ça me coûte cher d'électricité. Non, non, c'est parce que c'est les poumons de ta maison. Fait que fallait continuer.
Exact. Puis un échangeur d'air, il faut qu'il parte combien de temps par heure?
Ça dépend toujours du taux d'humidité. S'il fait froid, il fait chaud, okay. l'air ambiant. Mais en moyenne, c'est 20, 40 ou 60. Fait qu'entre une et trois fois par heure. Puis ça va dépendre aussi du facteur.
Okay. Moi, chez nous, dans la cave, parce que je t'ai fait venir pour que ça me coûte moins cher, chez nous, dans la cave, c'est 50. Rez-de-chaussée, il est à... Je pense que le taux d'humidité est autour de 40. Puis en haut complètement, j'ai du 35. Ça explique pourquoi j'ai tout le temps le goût de boire de la Coors Light. Mais c'est-tu bon, ça, quand tu as trois niveaux d'humidité dans une maison?
Bien, c'est sûr que le mieux, ça serait d'essayer de faire une belle moyenne.
Que ce soit uniforme.
Ouais.
Okay.
Ça veut dire que ton échangeur d'air, souvent, si tu en as un sur les trois étages...
Et ça, sur les trois étages.
Il faut qu'il soit bien calibré.
Oui, il part 20 minutes par heure.
Oui, mais il peut partir. Mais est-ce que tes ouvertures, tes embouchures sont ouvertes, pleines capacités, restrictives ou autres? C'est là qu'il faut aller chercher un gars en ventilation qui va calibrer ton échangeur d'air.
OK, je comprends.
Comme une fournaise, mettons, qui va ventiler, mais ton air climatisé, si tu gèles en bas, mais en haut, t'as chaud, il faut que tu calibres tes tuyaux pour que ça pousse plus vers le haut que vers le bas.
OK. Question de l'auditoire. Une maison trop isolée, ça peut être problématique?
Oui. Nouveau Climat 1.0 était très isolé, très hermétique. Et donc, créer de la moisissure dans les murs, parce que le point de rosée, puis là, on commence à aller loin, là, mais le point de rosée dans le mur pouvait affecter l'isolation parce qu'il était trop hermétique ou pas assez.
OK. Fait que ta maison doit constamment respirer.
Oui. Ben c'est comme toi. C'est comme si je disais, je te mets un tape sur la bouche puis sur le nez, puis je l'ouvre une fois par heure. Essaye de survivre.
Ouais. Quoi que ça doit m'être arrivé, j'ai eu souvent des blancs de mémoire à certains endroits.
Oui, mais en même temps, c'est pas le gouvernement qui disait qu'on pouvait respirer par les toilettes dans un moment donné. Dans la COVID.
Oui, 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 exact. Hey, mais c'est ça. Souvent, les gens essayent de rendre leur maison le plus hermétique possible pour que ça ne coûte pas trop cher de chauffage, mais ils nuisent à la qualité d'air. Puis ça se peut que ça nuit à la maison aussi. Là. La pourriture peut prendre, les champignons peuvent prendre.
C'est pour ça que quand on dit qu'on veut rénover un vieux bâtiment, mettons une maison ancestrale, puis on dit « Oh, je veux tomber avec les mêmes normes qu'aujourd'hui », oui, mais non. Oui, si tu le fais comme il faut. Non, si c'est toi qui le fais. Il faut que tu sois capable de dire, ben mon changement d'air, il faut qu'il soit à temps à l'heure, il faut que je mette un échangeur d'air, il faut que mes ponts thermiques soient cachés, il faut plus qu'ils soient là. Parce que si tu hermétises, mais juste d'une façon, puis que finalement, tu n'as pas tout englobé ta ventilation, ton bâtiment ne respirera plus. Il va, s'il y a de l'humidité qui reste, ben, c'est là que ça va moiser et va créer une problématique.
Je comprends. Hey, dernière question avant la pause, parce que je veux parler de ton fameux métier d'homme fort, parce que tu as deux métiers, toi, inspecteur en bâtiment et homme fort. Les fameux tuyaux de cuivre, là, moi, j'ai eu la chance de tomber sur deux maisons que j'ai achetées qui avaient des tuyaux de cuivre. J'ai été obligé de tout changer ça parce que j'en voulais pas de problème.
Ouais.
Malgré le fait que les tuyaux de cuivre ont eu leur efficacité pendant plusieurs années, là, moi, quand je faisais la plomberie, j'enlevais tout ça puis je remplaçais ça par du matériel de l'année où j'étais. Tu tombes-tu encore sur des tuyaux de cuivre? C'est encore aussi bon que c'était dans le temps?
Bien, il y en installe encore aujourd'hui. C'est juste parce que ça coûte cher.
Ouais.
Parce que du cuivre, en moyenne, ça dure entre 40 et 50 ans, selon, bon, y a-tu des conductivités dessus avec un autre matériau, un autre métaux. Donc, dans ce cas-là, ça fait de la corrosion.
Ouais.
Mais du cuivre, c'est bon. Tant et si longtemps que c'est bien entretenu et qu'il n'y a pas de problématique. Donc, oui, on en tombe encore. Aujourd'hui, ce qui est plus problématique, c'est ce qu'on appelle du poly-B, donc du polypropylène. C'est un drôle de mot à dire.
Oui.
Mais le poly-B est un tuyau gris qui casse avec le temps.
Oui.
Fait que là, ça crée des fuites d'eau. Fait que les banques commencent à bloquer des transactions tant qu'ils sont temps que c'est pas changé.
OK. Mais là, moi, j'avais mis des tuyaux en plastique, là.
Oui, mais le PEX qui est blanc, rouge, bleu, ça, c'est correct.
J'ai du rouge puis j'ai du bleu. Oui,
ouais, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on vend présentement. Il n'y a aucun problème. Mais le gris, qui est le poly-B, lui, c'est juste qu'avec le temps, il vient qu'à s'égrener.
Oui.
C'est au niveau des jonctions qui cassent.
Oui, puis c'est moins complexe à faire aussi, là, quand c'est en plastique, là.
Oui, mais tu as plus de chances d'oublier. Ça arrive souvent qu'on m'appelle en disant, ouais, ça coule dans mon mur, je sais pas où. Ouais, OK, qu'est-ce que tu as fait? On a refait la plomberie. OK, on va voir. Finalement, ils ont oublié de serrer une bague. Donc, ça coule.
Incroyable. All right, ce soir, on est avec Jocelyn Lusignan. On parlait de son merveilleux métier d'inspecteur en bâtiment. Pour les gens qui t'écoutent, qui trouvent, coudon, Jocelyn a l'air d'avoir bien du bon sens, peuvent-tu te rejoindre quelque part?
Oui, soit sur le site Internet Inspection CJL ou sinon, ils peuvent nous appeler 581-703-0036. S'ils font l'option 2, c'est moi directement qui réponds. Ou sinon, c'est ma fabuleuse adjointe Karine qui va répondre et va prendre le temps avec eux de répondre à ces questions.
Fabuleuse adjointe. C'est clair que c'est la femme de ta vie.
On espère. Okay. Toujours.
Tu vas-tu la demander en mariage bientôt?
Et...
si elle écoute ça!
C'est déjà fait.
On fait une courte pause, on revient.
Marceau, le soir. Le soir.
Chez Oxio, on est aussi obsédés par votre Internet que vous. Et comme vous, on l'adore pour ses opportunités et ses possibilités illimitées. On croit aussi en la transparence. Avec nos prix détaillés, vous voyez où va chaque dollar. Découvrez nos prix clairement transparents sur oxio.ca. Tes ventes en ligne ont explosé. T'as fêté ça? L'équipe est épuisée. Ta plateforme de e-commerce ne travaille pas pour toi. Adio Commerce est la solution québécoise qui t'aide à vendre mieux pour vendre plus. Dites adio au mot tête. Planifiez une démo sur adio.ca. avec 2dcommerce.com.
Attention, on explose les jeudis au Phoenix. À la taverne, le Moby Dick, le billard et les dards sont à 1$ seulement. Découvrez notre bar à rhum. Deux rhums québécois en promotion les jeudis, le Moby Dick. La place pour vous rassembler entre amis dans le complexe du Phoenix du Parvis.
Granny Mobile, entreprise familiale depuis 2 générations, remercie sa clientèle pour la confiance accordée dans la réalisation de leurs projets. Depuis plus de 25 ans, Granny Mobile fabrique et installe des comptoirs en granit, quartz et Decton pour cuisine et salle de bain. Ajoutez finesse et élégance à votre décor. Granimobile.com.
Tapis Montmagny, c'est plus de 210 000 pieds carrés de couvre-plancher en inventaire. Céramique, bois franc et flottant, vinyle click, tapis, habillage de fenêtres, literrerie et plus encore. Aussi service de design intérieur et d'installation de couvre-plancher. Tapismontmagny.ca. Bien plus que du tapis.
Pour des créations uniques et sur mesure, c'est Mathurin Cuisine et Salle de bain. Notre équipe dynamique se démarque par sa créativité et son innovation afin de vous faire vivre une expérience personnalisée de la conception à l'installation. Prenez rendez-vous dans l'une de nos 5 succursales, Mathurin Cuisine et Salle de bain.
Obtenez toujours le meilleur prix chez Lunetterie Bellan. Profitez du forfait monture et verre à 99$ pour les verres simple vision et à 249$ pour les verres progressifs. De plus, en janvier, économisez jusqu'à 100$ à l'achat d'une deuxième paire. LunetterieBellan.com. Service qualité bas prix.
Une seule paire d'orthèses plantaires pour toutes vos paires de chaussures, c'est fini ce temps-là. Chez Équilibre, obtenez 2 paires d'orthèses plantaires pour 555$ ou 610$. Détail dans vos succursales Équilibre. Prenez rendez-vous sans frais avec un de nos professionnels sur équilibre.net.
Mercado.fm, c'est la nouvelle adresse qui regroupe une tonne d'offres locales à prix imbattable. Découvrez une multitude d'entreprises et marchands québécois, cliquez sur nos offres pour en connaître davantage et profitez du meilleur prix chaque fois.
Obtenez un chèque cadeau à 50 % de rabais dans les 2 boutiques au 7e ciel ou en ligne au 7e ciel.com. Ou encore, des soins du visage complets d'une valeur de 125 $ pour seulement 65 $ chez Infinima Spa.
Un marché de proximité où l'achat local est une priorité. Mercado.fm. Découvrez, cliquez, profitez.
Pour vendre ou acheter une propriété, faites-le avec Groupe Sutton Nouvelle Demeure. Une équipe reconnue pour son intégrité, ses compétences et pour ses courtiers de confiance qui font preuve de rigueur et d'efficacité. Suivez Groupe Sutton Nouvelle Demeure sur les réseaux sociaux ou visitez suttonquebec.com.
Vous êtes plombier ou électricien, compagnon ou apprenti, Joe Drouin, plomberie, électricité, chauffage a besoin de vous. Vous êtes compétent? Alors joignez-vous à une équipe dynamique pour des projets résidentiels et commerciaux motivants. Prime à l'embauche aussi offerte. Détails à joedrouin.com.
Quand il fait froid, offrez-vous une bonne dose de réconfort avec Bouffe et compagnie. De délicieux repas prêts à réchauffer et à savourer en moins de 2. Choisissez parmi une multitude d'options de repas au format qui vous convient. Menu renouvelé chaque semaine. Bouffeetcompagnie.com.
Reprenez vos bonnes habitudes avec la fromagerie Bergeron. Essayez les savoureux fromages réduits en gras. Le 6 % le classique léger, le classique fumé léger et le seigneur de Tilly vieilli 18 mois. Une bonne source de protéines pour accompagner vos activités sportives. Trouvez les fromage Bergeron en épicerie.
Vous voulez réunir votre équipe de travail? Pensez au Village Nordique. Du 10 février au 12 mars, organisez une journée corporative unique en formule clé en main. Salle de réunion, pêche sur glace et 5 à 7 festifs. Détails et réservations au villagenordique.com.
Chérie, on se les gèle.
Le soleil se lève bientôt. Il devrait faire un petit peu plus chaud.
Quand on se les gèle, c'est SGL qu'on appelle. SGL Climatisation Chauffage vous offre des thermopompes Daikin au meilleur prix de l'année. L'occasion idéale pour se réchauffer sans se ruiner. Visitez sglclimatisationchauffage.com.
102, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est...
Boulevard.
BLVD.
Boulevard. 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Ce soir, on est avec Jocelyn Lusignan, un nom de famille qui est assez rare à Québec. Lusignan, ça vient d'où?
Ben, nous autres, on est des importés.
Oui!
Lusignan, techniquement, moi j'ai un T à la fin. Donc, oui. C'est juste parce qu'on est une nouvelle branche.
Ouais.
Mais Lusignan, techniquement, c'est français. Moi, je suis acadien de souche.
Ah, t'étais déporté. Ta famille, tu étais déportée?
Mon grand-père était un Nantel. Il a été adopté par une famille de Lusignan. Il y a 18 ans, il a mis un T en arrière en disant je vous ressemble pas, je vais créer ma propre branche. Puis depuis ce temps-là, ben, on est de même.
Hey, moi, j'ai pogné des Acadiens en Nouvelle-Orléans. Puis ils parlent plus français aujourd'hui. Là. Ils ont des bases, là, mais sérieusement.
Ça embauche l'anglais ou le français, un des deux.
Ouais, ben, en fait, eux autres, ils étaient parfaitement américains maintenant, aujourd'hui, là, mais ils me parlaient de leur histoire, puis l'histoire de leurs ancêtres. Là, on aurait bien des choses à dire, là, mais c'est des fêtards. Moi, ce que je me suis aperçu là-bas, là, c'était des entrepreneurs pour la plupart qui habitent dans le quartier français. T'as-tu déjà été sur Bourbon Street en Nouvelle-Orléans?
Non.
T'as énormément de francophones là.
Moi, j'ai pas le temps, tu sais, je travaille.
Oui, c'est ça, mais je t'invite à y aller. Si t'es capable d'en revenir, c'est que c'est bon signe, c'est que tu tripes pas tant que ça sur le party, parce que sérieux, c'est le party 24 heures sur 24 là-bas. Oh, là.
Quand même.
Quand tu sors des bars, souvent, ça arrive que le soleil est levé depuis 3-4 heures. Oh. C'est exceptionnel. Mais bref, il y a énormément d'Acadiens qui sont dans ce secteur-là. Donc, Jocelyn Lusignan, on en a parlé. C'est un inspecteur en bâtiment, mais c'est aussi un homme fort. Et on va parler un peu de ça, si tu le veux bien, cher ami. Il reste encore quelques minutes. Homme fort, ça t'est passé par la tête quand, ça?
Bien, ça fait plusieurs années. Moi, j'ai joué au football un petit peu.
Ouais.
C'est mon petit cousin qui a percé. Lui, il a joué pour l'Université Laval et pour les Alouettes de Montréal.
OK. Puis toi, pourquoi t'as pas percé? T'avais des problèmes d'alcool?
Non, je bois même pas. Non, c'est juste que, bon, famille, enfants, école, puis peut-être la non-discipline.
OK.
Tu sais, quand t'es jeune, t'es peut-être pas assez discipliné.
Ouais.
Puis j'ai continué à m'entraîner. Je m'entraînais avec un de mes coachs, qui est un de mes amis, Anthony Kemba. Puis je voulais perdre du poids.
Okay.
Ça, le pire, ça a commencé de même.
Mais tu pesais, avant de t'entraîner, puis d'avoir le poids que t'as, là.
Quand j'ai commencé.
Parce que ceux qui t'ont jamais vu, te ressemblent de Hulk, là. Ouais.
Quand j'ai commencé à m'entraîner pour
perdre du poids. C'est juste que t'es pas vert.
Ouais, juste ça. Quand même, j'ai des beaux yeux.
Ouais, j'ai des beaux yeux. Mais c'est ça, quand t'as commencé à t'entraîner,
quand j'ai commencé à m'entraîner, je pesais 330 livres.
OK.
Puis là, j'ai dit à Anthony, c'est soit je me fais brocher l'estomac, parce que j'étais gros dans le temps.
OK.
Oui, j'étais pas une masse de muscles comme ça.
Il était dodo dans les bras.
J'aurais pas rentré dans les trappes d'entre-deux, je te le confirme, j'étais camionneur dans ce moment-là. Je commençais. Puis j'ai dit, il faut que je perde du poids. Puis là, il dit, ben regarde, il dit, prends pareil ton opération,
ouais,
ta date, parce que c'est tout le temps long, cette histoire-là. Mais il dit, si on tombe en bas de l'IMC, qui était à 45 dans ce temps-là, ben t'auras plus le droit de le faire, puis ça voudrait dire que t'as changé ton mode de vie, puis mais on va être correct.
OK. Ton IMC à 45, c'est-tu...
Ouais, ton indice de masse graisseuse.
Hein? Ouais, c'est ça. C'était-tu trop gras?
C'est très, très gras. Là.
Oui?
Oh oui. Okay. C'est 40% là, de masse graisseuse sur le corps. Là. C'est okay. Pas, c'est
quelqu'un
pas
qui est en santé là, peut avoir... Là, je suis en train de dire des affaires. Je suis gros, mais je suis en santé! Mais... Quelqu'un qui est en santé peut avoir 13, un IMC de combien? 13-14.
13-14. Mais tu sais... Okay. Je suis pas assez bon là-dedans pour pousser là-dessus. Là, fait que lancez-moi pas des tomates pour ça. Puis quand j'ai commencé, il dit ah, tu préfères des compétitions powerlifting. Fait que ça, c'est genre squat, okay, deadlift, bench, puis tout ça.
Parce qu'il a remarqué que tu étais fort naturel.
Oui, mais j'ai une bonne charpente. T'sais. J'étais quand même 6 pieds, 3 ans quelques livres. Ouais. Ça lève du poids habituellement. Puis sérieusement, j'avais pas d'attirance tant que ça.
OK.
Mais là, à un moment donné, on arrive au gym ici au gym de XPN, là, sur Pierre Bertrand.
Mm-hmm.
Puis il y a un yoke. C'est comme une structure, un joug pour marcher avec. Puis tu mets du poids. Puis je m'amuse avec des gars en enfer, monte à 700 livres, marche sur 50 pieds aller-retour, ça va bien, c'est le fun. J'ai comme cru, c'est quoi ça? On fait quoi avec ça? T'sais? Puis là, on m'a expliqué.
Tu marchais avec un poids supplémentaire de 700 livres sur toi?
Ouais.
OK.
Puis jamais ça.
Okay.
Tu sais, la petite douleur qui fait qu'après ça, ton corps, il fait comme « Ah, je peux me reposer en
main. » Mais 700 livres, c'est quand même assez respectable, là, considérant le fait que moi, vendredi soir, je lève de la Coors Light. Là, je n'irai pas l'eau.
C'est pas la même chose, mais tu vois, il y a des jokes de 1100 livres, des yokes comme ça. Là, dans le mondial, là, okay, ça lève pesant.
Mais il faut avoir une certaine corpulence pour être capable de lever ces charges-là. Là.
Autant pesant, oui, mais tu vois, il y a comme du lightweight, middleweight, heavyweight pour ça. Fait que quelqu'un qui est de ta grandeur et de ta taille pourrait lever des poids très pesants quand même,
okay,
parce qu'il y a une technique à aller chercher.
C'est genre trois fois son poids, mettons, pour être considéré comme fort?
Non, ben techniquement, tu peux tomber dans le 5% si tu lèves une fois et demie ton poids dans tout. Là. Fait que... Je te dirais ça.
OK. Ah ouais, si je lève une fois et demie mon poids.
Ben, si tu fais un military press,
ouais,
une fois et demie ton poids.
T'es fort. OK.
Fait que, en tant que comme fort, c'est sûr que la charge va toujours être plus pesante. Fait que, tu sais, on regarde, mettons, là, les records qui ont été faits de Jean-François Caron pour au deadlift, 1202 livres.
Yes.
Tu sais, il l'a levé, là.
Ouais.
Des squats à 1000 livres, là, il était rendu, il a fait son squat à 966 livres.
Ouais.
C'est pesant, là. Moi, à 645, il m'avait plein bobette, là.
C'est ça.
On travaille fort, on aime ça, par exemple, parce que c'est une passion.
Puis quand vous vous entraînez, est-ce que vous vous entraînez uniquement sur les appareils que vous allez utiliser en compétition ou vous devez faire d'autres appareils au travers pour réussir à vous améliorer avec ces fameux appareils-là?
Toute la semaine, on s'entraîne au gym comme monsieur, madame, tout le monde. Squat, deadlift, bench, un peu de vélo, du cardio, puis des dumbbells. Mais la fin de semaine, on a des formations de 4 heures pour aller faire que des épreuves.
OK.
Donc, la roche, les frames, les frames du farmer, qu'on appelle.
Oui.
Donc, excuse-moi l'anglicisme, là. On ne l'a pas en français.
Non, c'est ça.
Puis,
on s'organisera avec les plaintes.
Oui, c'est ça. Puis, on fait des roches pour qu'en compétition, on puisse pouvoir travailler.
Être capable d'être performant.
Oui, c'est okay. Ça. Puis, juste pas chier dans ces gars-là.
Parce que, tu sais, tu sollicites. Avec ces appareils-là, tu sollicites des muscles que normalement, dans ton quotidien, tu ne solliciteras jamais. Là.
Non. Puis ce qui est important, c'est de s'étirer à tous les jours. Tu sais, ça a l'air du yoga. Là.
Ouais.
Comment faire?
Tu vrai? Je t'imagine oui. Avec tes petits leggings.
Ben, tu vois.